Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous reprenons notre série d'émissions « La bonne nouvelle aux musulmans ». Nous allons étudier de près le sacrement de pénitence et de réconciliation. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez des observations ou objections à formuler, des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à radio-silence@wanadoo.fr. Nous vous répondrons dans le plus bref délai. Le sacrement de pénitence et de réconciliation. Dans chaque sainte messe, nous disons ensemble les paroles suivantes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Pourquoi prions-nous ainsi? Parce que chacun de nous sait qu'il est un être humain faible, non pas créé faible, mais affaibli par les conséquences désastreuses du péché originel qui nous a enlevé l'état de grâce et de sainteté voulu par Dieu. Nous sommes des êtres capables de faire et de penser le mal, capables d'être fautifs vis-à-vis de Dieu, du prochain et des créatures qui nous sont confiées. Nous savons que la nouvelle vie de la grâce reçue au baptême n'a pas supprimé la faiblesse de notre nature humaine, ni l'inclination au péché. Or, puisque l'état de grâce que nous avons reçu au baptême ne perdure pas toute une vie à cause de notre faiblesse, le Christ a institué ce sacrement pour la conversion des baptisés qui se sont éloignés de lui par le péché. Quand le Christ a-t-il institué ce sacrement? Saint Jean nous le relate dans le chapitre 20, versets 22 à 23 de son évangile. Il nous raconte que Jésus apparaît aux apôtres le soir de Pâques, il leur insuffle l'Esprit Saint et leur donne le pouvoir de remettre les péchés. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Saint Matthieu nous raconte que Jésus promet à Saint Pierre le roc sur lequel Jésus bâtira son Église. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lié. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délié. Quand nous proclamons la rémission des péchés dans le symbole de la foi, nous pensons de façon concrète au sacrement de pénitence. Mais qu'est-ce que signifie la pénitence intérieure? Nous lisons dans l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique ceci. La pénitence, c'est l'élan du cœur brisé, poussé par la grâce divine à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu. La pénitence implique douleur et aversion vis-à-vis des péchés commis, ferme propos de ne plus pécher à l'avenir, et confiance dans le secours de Dieu. Elle se nourrit de l'espérance en la miséricorde divine. À part le sacrement de la réconciliation, le chrétien peut pratiquer plusieurs formes de la pénitence, spécialement le jeûne, la prière et l'aumône. Ces formes de pénitence sont spécialement conseillées le temps du carême et le vendredi, qui est jour de pénitence en mémoire du sacrifice rédemptoire de notre Seigneur Jésus. Quels sont les éléments essentiels du sacrement de la réconciliation? Primo, les actes accomplis par l'homme qui se convertit sous l'action de l'Esprit Saint. Secondo, l'absolution du prêtre qui, au nom du Christ, accorde le pardon et précise les modalités de la satisfaction. Voici les paroles du prêtre quand il donne l'absolution. « Que Dieu notre Père te montre sa miséricorde, Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il te donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Or, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller se confesser? Il faut d'abord faire un sérieux examen de conscience. Puis, il faut se repentir de ses mauvais actes. Cette contrition, pour être parfaite, doit être motivée par l'amour envers Dieu. Et il faut avoir le ferme désir de ne plus vouloir pécher. Si elle est motivée par la peur, la contrition, bien qu'imparfaite, est suffisante pour l'absolution. Puis, on confesse ses péchés devant un prêtre. Pour réparer pleinement ses fautes, il faut encore accomplir certains actes de pénitence que le confesseur impose au pénitent. Quel péché faut-il confesser? Il est évident qu'il faut confesser et puis réparer tout ce qui nous sépare de l'amour de Dieu et du prochain. Mais il y a quand même des dégradés de péché. Un meurtre, un adultère ou un sacrilège constituent des péchés graves, c'est clair. Mais attention, pas seulement l'acte, mais aussi les mauvaises pensées ou la préméditation d'un péché, même s'il n'est pas commis réellement, constitue déjà un péché. Jésus le dit clairement. « Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Or, tout fidèle ayant atteint l'âge de raison est obligé de confesser ses péchés graves au moins une fois dans l'année, mais de toute façon avant de recevoir la communion. Pour qu'un péché soit considéré comme grave et mortel, parce qu'il enlève la vie de la grâce, trois conditions sont ensemble requises. Il faut qu'il ait comme objet une matière grave, qu'il ait commis en pleine conscience, et qu'il ait commis de propos délibérés. Est-ce que dans le christianisme la peine de mort est prévue pour des péchés graves, mais jamais de la vie? Même pour certains péchés particulièrement graves, exécrables, qui sont punis d'excommunication, comme par exemple l'avortement, ceci vaut surtout pour les avorteurs, l'homosexualité, la pédophilie ou l'appartenance à certains cercles antichrétiens pratiquant des sacrilèges monstrueux, l'Église catholique ne connaît pas de peine de mort. Mais l'absolution peut être réservée au siège apostolique ou à l'évêque du lieu, ou aux prêtres autorisés par eux. En cas de danger de mort, toutefois, tout prêtre peut absoudre de tout péché. Est-ce qu'il y a d'autres châtiments corporels dans le christianisme? Mais non. Mais chaque pénitent est tenu de réparer sa faute dans la mesure du dégât qu'il a causé. En général, cela se fait par des réparations matérielles, des aumônes ou par des prières. Est-ce qu'il faut aussi confesser les péchés véniels? Strictement parlant, on n'est pas obligé de confesser les péchés véniels ou fautes légères, mais l'Église conseille vivement de les confesser aussi, parce qu'ils contribuent à former la conscience droite et à lutter contre les mauvais penchants. Pour qu'un péché soit considéré comme véniel, il faut les conditions suivantes. Une matière légère, où l'on n'observe pas la mesure prescrite par la loi morale, ou bien une matière grave, où l'on désobéit à la loi morale, mais sans pleine connaissance, ou bien on désobéit à la loi morale, dans ce cas-là, sans entier consentement. Qui est le ministre du sacrement? Le Christ a confié le ministère de la réconciliation à ses apôtres, aux évêques, leurs successeurs, et aux prêtres, leurs collaborateurs, qui deviennent ainsi les instruments de la miséricorde et de la justice de Dieu. ils exercent le pouvoir de pardonner les péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des gens qui se sentent gênés de devoir confesser leurs fautes à un prêtre. Mais ils ont tort. Tout confesseur est tenu, sans exception aucune, et sous peine de sanctions très sévères, de garder le sceau sacramentel, c'est-à-dire l'absolu secret, au sujet des péchés dont il a connaissance par la confession, même au prix de sa vie, comme nous le montrent les martyrs du sacrement de la pénitence, par exemple Saint Jean Nepomucène au XIVe siècle. Et n'oublions pas que chaque prêtre, chaque évêque, le pape même, est également obligé d'aller se confesser comme n'importe quel autre chrétien. La confession personnelle devant un prêtre qui nous semble tellement humiliante est pour ainsi dire le contre-pied de notre orgueil par lequel nous avons péché. Mais le principal, ce n'est pas l'humiliation, mais la guérison par le Christ lui-même qui exerce ainsi par les ministres de son Église son œuvre de guérison et de salut. Le prêtre ne nous humilie pas, au contraire. Comme il nous s'est blessé aussi, il nous redresse, nous réconforte et nous guérit au nom de Jésus-Christ. Dans les cas de graves nécessités, comme par exemple en danger de mort imminente, dans un naufrage ou autre catastrophe, on peut recourir à la célébration communautaire de la réconciliation avec confession générale et absolution collective. Absolution générale. Mais dès que possible, on devrait confesser individuellement les péchés graves. Hormis les cas cités plus haut, la célébration communautaire n'absout pas de péchés graves. Quels sont les effets de ce sacrement? Il y a plusieurs effets, à savoir la réconciliation avec Dieu et le pardon des péchés, la réconciliation avec l'Église et le retour dans l'état de grâce s'il avait été perdu, la rémission de la peine éternelle méritée à cause des péchés mortels, la paix et la sérénité de la conscience, la consolation spirituelle, l'accroissement des forces spirituelles pour le combat chrétien. Qu'est-ce que c'est que les indulgences? Chaque fois que nous recevons l'absolution pour nos péchés, il nous reste encore à réparer les fautes commises. Nous sommes obligés de purger une peine temporelle pour les péchés dont la faute est déjà pardonnée. Or, les indulgences, du latin indulgere, accorder, sont la rémission totale ou partielle devant Dieu de cette peine temporelle. On peut acquérir cette rémission à certaines conditions, pour soi-même ou pour les défunts, par le ministère de l'Église, qui en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue le trésor des mérites du Christ et des saints. Attention, l'indulgence libère seulement de la peine temporelle, non pas de la peine éternelle, qui est la privation de la vie éternelle de la communion avec Dieu. Le catéchisme recommande toujours, avec l'aumône et les œuvres de pénitence, l'usage des indulgences en faveur du défunt. Dans tous les cas, indulgence plénière ou partielle, le fidèle doit être en état de grâce. L'Église nous rappelle que l'indulgence est accordée aux pécheurs non pas en vertu de ses pénitences seules, mais de la communion des saints. Pour l'indulgence plénière, dont l'obtention est limitée à une fois par jour, il doit avoir le désir de gagner l'indulgence, se détacher complètement du péché, même véniel, se confesser dans les 8 jours avant ou après l'indulgence, communier le jour même, prier selon les intentions indiquées par le pape, ou prier aux intentions du pape, accomplir l'action à laquelle est attachée l'indulgence dans le temps prescrit, si l'indulgence est attachée à un jour ou une période particulière, par exemple la fête de la portion cul le 2 août. Si ces actions ne sont que partiellement remplies, ou que le fidèle n'a pas les dispositions du cœur requises, l'indulgence n'est que partielle. Il est également rappelé que l'indulgence ne peut être appliquée qu'à soi-même ou aux âmes du purgatoire par mode de suffrage, et non à d'autres personnes vivantes. Voici quelques actes auxquels sont attachés une indulgence plénière. Pour soi-même ou les défunts par suffrage. Réciter le chapelet dans une église seule ou à plusieurs. Réciter le chapelet à plusieurs en dehors d'une église. Une demi-heure d'adoration. Une demi-heure de lecture de la Bible. Recevoir la bénédiction papale Urbi et Orbi à Pâques, à Noël ou lors de l'élection d'un nouveau pape, même par des moyens audiovisuels, uniquement pour les défunts, visiter un cimetière pour y prier pour les défunts, indulgence gagnable quotidiennement entre le 1er et le 8 novembre. Plusieurs dévotions liées à un saint, au Christ, au Sacré-Cœur, etc., ont aussi, par décret des papes, l'effet d'accorder une ou plusieurs indulgences après l'accomplissement quotidien d'une action, comme la récitation d'une prière. Alors, appliquons-nous à pratiquer les indulgences pour les âmes du purgatoire, car elles sont nos amies les plus reconnaissantes. Terminons cette leçon par les prières suivantes que je vous recommande vivement de réciter autant que possible. Ô bon et très doux Jésus, me voici prosterné en votre sainte présence. Je vous prie et vous conjure avec toute la ferveur de mon âme de graver en mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes péchés et une ferme volonté de m'en corriger, et que je contemple en esprit vos cinq plaies avec une grande affliction et une grande douleur, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète David vous appliquait en les mettant sur vos lèvres. Ô bon Jésus, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Ou bien la prière âme de Jésus-Christ. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Et pour terminer, ô Christ Jésus, je vous reconnais pour roi universel. Tout ce qui a été créé pour vous. Exercez sur moi tous vos droits. Je renouvelle mes promesses du baptême en renonçant à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je promets de vivre en bon chrétien. Et tout particulièrement, je m'engage à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu et de votre Église. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée et qu'ainsi le règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier. Ainsi soit-il.